Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir, le pire c'est qu'on est fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées et bénévoles de nos deux antennes. Et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Et surtout, une bonne et excellente année 2019 qui démarre en fanfare sur les ondes de Principe Actif. Certaines des émissions sont prolongées pendant les vacances, mais pour la matinale, c'est le grand retour sur Principe Actif et HDR. Ce matin m'accompagne évidemment, comme depuis un moment déjà, mon comparse et camarade et ami, monsieur Jean-Jean. Bonjour à vous, Jean-Jean, comment ça va ?
Bonjour, monsieur Pignon, je vous présente mes bons voeux. Voilà, le pire reste à venir, profitons du présent.
Très bien, eh bien, essayons. Et pour profiter du présent ce matin, nous accueillons et nous en sommes également ravis. Deux personnes du collectif Alternatiba, un hébroïcien, un rouennais, comme ça il n'y aura pas de jaloux ce matin sur les antennes. Nous sommes avec Clément Bresciani et Anthony Babic. Bonjour à tous les deux. Je l'ai bien
Bonjour.
Dit.
Bonjour. Non.
Non, alors comment on dit ? Alors corrigez-moi tout de suite.
C'est Basique.
Basique, pardon, voilà. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux comme ça. Très rapidement, on va détailler dans un instant un peu le sommaire, le propos des échanges, enfin les propos, les échanges que nous aurons ce matin. Je vais y arriver, hein, pour moi, c'est la reprise. Juste en un mot, peut-être rappeler ce que c'est que Alternatiba. Notamment, vous n'intervenez pas que sous la casquette Alternatiba, mais ce matin, on se concentrera essentiellement sur ça. Puis peut-être qu'on fera des crochets sur un élément ou deux. On a déjà reçu plusieurs fois à ces mêmes micros et également sur HDR des membres d'Alternatiba, mais c'est peut-être quand même important de rappeler voilà ce que c'est qu'Alternatiba et comment vous le voyez très rapidement sur cette petite intro. Clément, Anthony.
Clément. Alternatiba, c'est un ensemble de collectifs dans toute la France, mais même pas que, qui sensibilise sur le problème du réchauffement climatique et surtout propose tout un panel d'alternatives dans tous les domaines de la vie. Voilà. Je sais pas.
Anthony, vous voulez rajouter quelque chose ?
Ouais, donc un collectif de citoyens et d'associations. C'est bien aussi de dire qu'il y a plusieurs associations qui, justement, font partie de ce projet.
Très bien. Vous l'aurez compris, amis auditrices et auditeurs, ce matin, on parlera changement climatique, pourquoi pas transition écologique. On parlera sans doute un petit peu gilet jaune. On en parlera, il me semble, dans un instant avec le petit papier de monsieur Jean-Jean. Non, pas, vous me dites non ? Si. Ouais, voilà, ça, moi, ça me rassure, parce que si vous me dites non,
là, je suis en train de l'écrire, là.
D'accord, donc, je vous laisse une demi-seconde.
Laisse-lui un peu de rame.
Et on parlera pourquoi pas effondrement également. Enfin, on verra où nous mènent ces discussions. On parlera peut-être également, pas peut-être, même c'est sûr, de ce qui se passait. C'est un peu la porte d'entrée de l'invitation qui vous était donnée ce matin. Faire une sorte de retour un petit peu sur la COP24 qui avait lieu en Pologne à Katowice du début à la mi-décembre dernier. Voilà, savoir un petit peu ce qu'il en est ressorti. Est-ce que c'est pertinent, intéressant ? Est-ce que ça va sauver le monde ou pas ? Tels seront un petit peu les questions que nous aborderons ce matin. Le tout vous sera servi évidemment avec du bon son, de la bonne humeur. En tout cas, on l'espère. Pas de message répondant, on n'en écoutera pas, mais je vous rappellerai dans un instant comment procéder. Et peut-être qu'on aura le temps en toute fin d'émission de retrouver vos bons plans. Et puis oui, j'étais en train d'oublier, on passera un coup de fil à monsieur le Diseux aux alentours de 8h30 pour connaître un petit peu son humeur en ce début d'année. Jean-Jean, je me rapproche de vous et je vais vous proposer d'ouvrir pleinement, rentrons dans le vif du sujet de cette première matinale de l'année 2019, si ça vous va.
Donc je réitère, donc meilleurs voeux à tous les auditeurs et auditrices de Principe Actif.
Ah, je suis ravi d'être avec vous, Monsieur Pignon, aujourd'hui. Là, le mec, il me tirage de pompe à mort pour se dire, bon, il y a quand même, on est reparti quand même sur une année. Donc, il vaut mieux quand même se la jouer propre dès le départ. Mais enfin, bon, c'est vrai que je voulais vous dire, hein, Monsieur Pignon, depuis 48 heures, tout le monde a pu voir ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, repris comme d'habitude par les chaînes d'infos. Ces images, donc, de boxe, hein, lors de l'acte 8 des Gilets jaunes. Hein, la première, elle se déroule à Paris, hein, entre quand même, faut le dire, hein, l'ancien champion de boxe Christophe de Tinger, donc poids lourd léger. Alors moi, je comprends poids lourd léger, faudrait savoir. Hein. On l'appelle le gitan de Massy, c'est du Haudiard, hein. Et un gendarme mobile qui, pour le coup, était plutôt immobile. Enfin bon, la seconde se passe à Toulon entre un commissaire divisionnaire, fraîchement distingué. Enfin bon, c'est vite dit, de la Légion d'honneur. Enfin, à ses yeux, la Légion serait plutôt étrangère. Hein. Et un casseur totalement immobile, lui, pour le coup, mais armé d'un tesson de bouteille, justement réinventant quand même les consignes, hein, et comme ça il y aura moins de bris de verre. Et donc, estimant qu'il y avait donc un contest insurrectionnel et que le commissaire en question, Didier Andrieux, donc a agi proportionnellement à la menace, le procureur de la République de Toulon, Bernard Marchal, nous y voilà, n'a pas donc ouvert de procédure, fermé le banc. Alors, me direz-vous, dans cette période de tension et de vœux exclusivement présentés sur Facebook, hein, afin justement d'éviter le contact, hein, sans doute, parce que se prendre une émoticône dans la tronche, cette courte figuration symbolique, hein, d'une émotion, d'un état d'esprit ou d'un petit ressenti en pleine poire, hein, c'est pas indélébile, hein, ça te fracture pas la cloison nasale, hein, ça pique pas les yeux. C'est vrai, quoi, même si pour la bonne année, on ne va plus au contact, hein, ça c'est sûr. Bonne année à tous, hein, avec des dessins de gâteaux foireux ou de coupes de champ éventées, hein, souhaitées via réseaux sociaux. C'est vraiment Facebook. Comment on dit, Facebook, ouais, c'est ça. Personnellement, je suis pour le contact, hein, le bisou, la collade ou la bonne pêche dans la tronche. Et moi, en fait, je propose un combat entre donc le gitan de Massy et le divisionnaire distingué, un combat en 6 rounds. Pourquoi 6 rounds, me direz-vous? Parce que bon, je sais compter jusqu'à 6 et puis c'est tout. Sur un ring qui mettrait en fait tout le monde d'accord, hein, les gilets jaunes devant, les marrons derrière, et donc les fonds seraient réservés à toutes les associations qui s'inquiètent aujourd'hui justement de la baisse des dons, hein. Ça serait une espèce de comment on dit ça, les étrennes en début d'année, c'est ça. Donc ces associations qui s'inquiète à la baisse des dons, mais ça, c'est un autre sujet. If I had a dime for every time, tell me I'm not what you need. If I had a quarter, I would pull it together, and I would take it to the bank and then leave. Yes, I would take it to the bank and then leave. Oh, Oui, donc un peu de douceur dans ce monde de testostérone. Woman, extrait du 10e album de Miss Chan Marshall, alias Cat Power. Donc 6 ans après son album Sun, hein, donc elle réitère avec cet opus Wanderer, sorti sur le label Domino en octobre dernier, et son morceau Woman, où elle est accompagnée de Mademoiselle Lana Del Rey.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like the mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 95.9 dans le sud du département de l'Eure, et 99.1 du côté de Rouen et ses alentours. D'habitude à cette heure-ci, ou un peu plus tôt dans l'émission, nous diffusons vos messages répondeurs. Ce matin, il n'y en avait pas. Il serait bien qu'en cette année 2019, vous nous laissiez un peu plus de matière sonore et audio. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos infos, vos coups de gueule, vos coups de cœur. Tout simplement nous laisser des petits bisous. On aime bien aussi, ça se passe au 02 32 62 57 32. Je le répète, 02 32 62 57 32. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous saisir, à vous emparer de cette zone d'expression radiophonique qui est la vôtre. On attaque nos échanges avec nos invités. On est toujours sur nos ondes. Et on le disait dans l'intro, on est avec deux membres du collectif de citoyens et d'associations Alternatiba. Un plutôt Alternatiba Évreux avec Anthony, et plutôt Alternatiba Rouen avec vous, Clément. J'ai envie qu'on attaque en reprenant un petit peu ce que vous évoquiez sur l'introduction. Voilà, Alternatiba, c'est un collectif de citoyens et d'associations qui se regroupent autour des thématiques notamment du changement climatique. Je veux bien qu'on commence par rappeler ça, même si en préparant un peu cette émission, on se disait que globalement, depuis 10, 15, 20 ans, les gens ont maintenant intégré progressivement que le changement climatique, ce que c'était, ce que ça impliquait, ou en tout cas certains éléments. Vous, quand on évoque le changement climatique, vous avez envie de nous dire quoi ? Qu'est-ce que c'est que le changement climatique ? Qu'est-ce que ça implique ? Clément, Anthony.
Alors tout simplement une transformation du climat avec une hausse de température et aussi dans certains cas une baisse. Donc ça entraîne des transformations et une accélération aussi des tempêtes, des ravages, donc la montée des eaux, etc. Il faut savoir qu'il y en a eu tout le temps sur la planète avec des créneaux différents de 70 000, 100 000 ans avec des hausses, des descentes, etc. Mais c'est la première fois que c'est aussi rapide. Et avec une augmentation aussi grande aussi en même temps, donc ça va tellement vite que les espèces, les animaux, les plantes n'ont pas le temps de s'adapter. Et c'est aussi la première fois que c'est vraiment prouvé à 90% que c'est à cause de l'homme que cette augmentation est aussi importante.
J'ai cru lire que depuis la révolution industrielle, donc le 19e, moitié du 19e siècle, et donc ça fait le lien avec ce que vous évoquiez sur l'activité, les activités humaines, c'est un degré supplémentaire depuis de réchauffement à l'échelle globale donc de la planète. Ça peut paraître anecdotique, mais en réalité c'est déjà énorme. Et on évoquera peut-être dans ces échanges, puisqu'on parlera de la COP24, peut-être en quelques mots sur le rapport du GIEC, donc le groupement international de chercheurs et scientifiques qui travaillent sur ces questions de réchauffement climatique. À l'issue de la COP24, il avait été 21, pardon, il avait été évoqué de pouvoir cantonner ce réchauffement climatique à 1,5 degré supplémentaire sur la fin de siècle. Visiblement, on va exploser ce chiffre. Je commence un peu à m'égarer, mais je replaçais peut-être quelques balises comme ça. Vous avez évoqué, Anthony, quelques conséquences de ce réchauffement climatique. On en a aussi évoqué quelques causes, la principale étant cette accélération des activités humaines. Clément, je veux bien peut-être votre regard, votre intervention sur ce cadre un peu général qu'est le changement climatique.
Ben, c'est principalement les gaz à effet de serre que émettent l'homme, et pas que l'homme aussi, c'est-à-dire que par exemple une éruption de volcan, ça émet énormément de gaz à effet de serre, de particules fines et d'autres qui sont moins fines. Mais les activités humaines sont tellement importantes et on est tellement nombreux aujourd'hui qu'on génère beaucoup de gaz à effet de serre de natures différentes qui ont tous un impact sur le climat, une durée de vie dans l'atmosphère. Et donc ce qu'on constate, c'est que les gaz à effet de serre restent très longtemps, et beaucoup trop longtemps pour qu'on ait le temps de les retirer. Donc en fait, une fois qu'ils y sont, pour des centaines, voire des milliers d'années, selon le gaz qu'on émet. Et ces gaz, ils proviennent principalement de l'industrie, du transport, du chauffage, bref, de la plupart de nos activités humaines.
Des choses peut-être à rajouter. Moi, j'ai repris sous les yeux quelques chiffres. Comme ça, c'est tiré du Monde diplomatique du janvier, là, du dossier de cette année. Et là, les chiffres que je vais citer, notamment du travail de Thomas Piketty, Carbone et inégalité de Kyoto à Paris. Ça dit à peu près ça. À eux seuls, les États-Unis représentent à peu près 26% du cumul des émissions de gaz à effet de serre depuis le milieu du 19e siècle, donc depuis la révolution industrielle, enfin l'Europe, c'est à peu près 24%, la Chine 12%, la Russie 8%. En 2014, un Qatari rejetait en moyenne 34 tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère, un Luxembourgeois 17 tonnes, un Américain 17 tonnes également, un Tadjik 625 kilogrammes par an et un Tchadien seulement 53, on voit des grandes différences. Et voilà, il faut savoir que 1% des plus riches émettent à peu près 200 tonnes par an de gaz à effet de serre, soit 2000 fois plus qu'un pauvre du Honduras ou du Rwanda. Je trouve ça vraiment évocateur. Et ce petit passage termine sur les 10% des terriens les plus riches seraient à eux seuls responsables de 45% des émissions de gaz à effet de serre global. Jean-Jean, une intervention.
Anthony, quand vous disiez tout à l'heure que des espèces ne pouvaient pas s'acclimater, ça veut dire en fait que les espèces disparaissent ?
Tout à fait, oui. Il y en a de plus en plus qui disparaissent, deux tiers des vertébrés, on a aussi une disparition des poissons, etc. C'est ce qu'on peut appeler la sixième extinction de masse qui a lieu sur la planète actuellement.
C'est-à-dire que là, on connaît des animaux que nos enfants ou nos petits-enfants, même oui, nos enfants ne verront pas.
Tout à fait, oui. Alors, il faut savoir aussi qu'on découvre plein d'espèces aussi entre-temps, mais il y a énormément d'espèces qui disparaissent parce que le changement climatique est trop rapide pour qu'elles puissent s'adapter. Et ça vaut aussi pour la flore et la faune.
C'est des espèces animales, mais aussi végétales, puisque ce sont des écosystèmes entiers qui disparaissent très régulièrement. On a placé peut-être un cadre de ce dont on évoque et on voulait y venir sur la COP24 très rapidement puisque c'est un petit peu l'actualité écologique internationale un peu passée hélas par d'autres actualités notamment sociales et évidemment importantes et d'ailleurs qui font un lien avec nos propos. On y viendra peut-être dans cette émission, on y viendra sûrement d'ailleurs, mais la COP24 en Pologne, Katowice du 2 2 au 14 décembre dernier, la grande réunion des... mais de qui d'ailleurs voilà, je ne vais pas donner toutes les réponses. C'est quoi la COP24?
Monsieur Pignon va faire son émission tout seul.
C'est ça. La COP24,
il connaît bien le sujet.
C'est qui, c'est quoi, c'est pourquoi?
C'est la conférence des parties. Donc en fait, c'est des représentants de tous les États de l'ONU, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça, c'est l'ONU. 187 ou 189 pays qui sont représentés à travers une réunion annuelle qui dure donc à peu près une bonne semaine, voire deux semaines. La COP24, ça veut dire que ça fait 24 ans que tous les ans, il y a un panel de représentants qui se réunissent pour essayer de se mettre d'accord sur des mesures à prendre pour combattre le réchauffement climatique.
Ces représentants, on le disait, c'est les États,
oui.
Des entreprises,
oui.
Ce qu'on appelle vulgairement, il me semble que c'est important de ne pas louper ça, des lobbies aussi, qui influencent justement les représentants de politiques, et évidemment d'autres formes de lobbies, ou en tout cas de groupes de pression, que sont les citoyens et les associations.
C'est un peu comme au Parlement européen, où c'est les politiciens qui décident, mais finalement dans les couloirs, il y a beaucoup plus que des politiciens.
Globalement, pourquoi la COP24 ? Voilà, c'est quelque part, on est au cœur du... Pourquoi on a essayé de voir le problème à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, et que visiblement, comme ça, vu de l'extérieur, on voit les difficultés qu'on a à se coordonner avec quelque chose comme 180, 190 États et entreprises et associations, ONG, etc. Anthony ?
Alors le changement climatique, déjà, il faut savoir que c'est connu depuis assez longtemps, depuis à peu près 1970, on a entendu parler de ce terme. Donc les États se sont rendus compte tout simplement qu'il fallait bien faire quelque chose. Le seul problème, c'est qu'à 190 voix, c'est pas évident de se mettre d'accord. Chacun a ses propres intérêts économiques, énergétiques, etc. Et même sans parler des lobbies, c'est déjà très compliqué d'arriver à mettre tout le monde d'accord. Si en plus on vient ajouter des lobbies d'entreprises qui ont elles aussi leurs propres intérêts, ça devient très 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 compliqué. Et là, si on regarde la COP24, elle a été organisée par toutes les entreprises liées au charbon, au pétrole de Pologne. Donc, c'est un peu compliqué de venir contrecarrer les gens qui nous payent pour être là.
Donc, sachant qu'il y a des États et pas des moindres, notamment l'OPEP, donc l'organisation des pays pétroliers, avec l'Arabie Saoudite, la Russie, alors les pays pétroliers mais aussi de gaz, les États-Unis, enfin voilà des gens qui pèsent très très lourd dans ce qu'on appelle la géopolitique, qui clairement eux en fait sont des entreprises mais aussi des États, enfin voilà, c'est-à-dire que toute une partie de la croissance et de la richesse de ces États-là est basée sur la production et l'export de produits d'hydrocarbures, donc de gaz et de pétrole. C'était un rebond. Oui, Clément.
Il y a pas mal de pays qui ont d'ores et déjà dit qu'ils ne suivraient pas les accords du climat, c'est-à-dire qu'ils ne signent pas, et donc ils annoncent d'ores et déjà qu'ils ne vont pas respecter l'accord. Et dans un second temps, quelque chose qui est très important de dire sur l'accord de Paris et la COP 21, qui a été signé, c'est un accord qui n'est pas contraignant, c'est-à-dire que les États qui le signent n'ont pas de contraintes, il n'y a pas de pénalité financière, par exemple, il n'y a pas d'amende pour les pays qui ne respectent pas les accords, les engagements. Donc finalement, il y a un premier gros point de blocage qui est que s'il n'y a pas une obligation de faire, il y a toute chance que l'économie finalement qui régit du coup nos choix, aujourd'hui politique en tout cas, soit trop forte pour mettre en place les mesures suffisantes. Donc il y a déjà là un gros point de blocage qui fait qu'on est en train de continuer à travailler sur un accord qui finalement, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas suivi entièrement. Donc oui.
Moi je me souviens de la COP 21, donc avec le petit marteau de M. Fabius là. Donc si je calcule bien, ça fait 3 ans, COP 21, COP 24. En 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a du positif, du négatif?
Alors en fait, par exemple, on peut dire que sur les 190 pays, il y a 16 pays qui arrivent à tenir leurs engagements, déjà. Donc sur ces 16 pays, en gros, il y a soit des pays, des petits pays insulaires, des petits pays qui sont actuellement dans le réchauffement climatique, des petits pays du Sud, etc., qui, eux, se prennent de plein fouet la montée des eaux, etc. Donc eux, ils ont tout intérêt à respecter leurs engagements, mais c'est très faible, puisqu'on a vu que c'était les pays les plus riches, etc., qui polluaient le plus et qui émettaient le plus de gaz à effet de serre. Et aussi d'autres pays plutôt riches comme le Japon ou le Canada et qui respectent leurs engagements parce qu'ils ont des engagements qui sont très faciles à tenir. Donc à côté de ça, il n'y a rien de vraiment positif qui vont permettre de jouer sur la balance du changement climatique actuellement.
On a évoqué un petit peu les acteurs, les raisons, on a évoqué des points de blocage aussi, pourquoi certains bloquent, des États, des entreprises, pourquoi certains sont, vous l'évoquiez à l'instant, Anthony, plus en avance, parce qu'ils ont ils sont directement concernés, impactés par les changements climatiques, c'est du concret. D'autres, je pense à Donald Trump, souhaitent plus ou moins volontairement, quand on parle de climato-sceptique, on pense, ou en tout cas moi je pense à lui en premier, volontairement se voile un petit peu la face, mais je pense qu'ils sont relativement conscients en réalité des enjeux. Voilà. Il n'en est rien ressorti de cette COP24 où il y a quand même des choses voilà, pour terminer un petit peu sur l'aspect COP24, est-ce qu'il y a quand même des choses positives à...
Il y a une petite citation juste du représentant des États-Unis qui est intéressante, qui a été dite à Katowice, qui est tout simplement « Aucun pays ne devrait sacrifier son économie ou sa sécurité énergétique au nom de l'environnement ». Donc voilà, ça a été dit devant le public, etc. Donc c'est déjà lourd de sens et c'est dit clairement.
Voilà. Ça a peut-être suscité quelques réactions, y compris des gens présents sur place au moment de ce discours.
Oui, donc il y a eu ce qu'on appelle une désobéissance civile. Donc, c'est-à-dire qu'une grande partie du public qui était là pour cette seule conférence des États-Unis ont décidé de tout simplement se lever, de chanter et de dire honte à vous aux États-Unis et ont quitté la salle. Donc ça a permis au moins de montrer que les citoyens ne sont pas d'accord avec ce qui a été dit.
Moi, j'ai la sensation que... Peu importe le regard qu'on ait, qu'il soit précis, aiguisé ou peut-être plus distant, aussi moins bien informé, on n'est pas tous égaux face à ça, que malgré tout, en tout cas les points de vue et les informations circulent de plus en plus. Et quelque part, ce que vous évoquiez là, c'est que les masques tombent par rapport au changement climatique. Ceux qui refusent d'agir pour des intérêts... plus égoïste. Voilà, maintenant, l'affirme très clairement. Il n'y a pas de question au bout, mais j'ai l'impression que voilà, il y a aussi ce truc-là que d'un côté et de l'autre, on se dit peut-être enfin les choses frontalement avec peut-être un peu moins d'hypocrisie, ou je suis complètement naïf, Clément.
Bah, il y a sans doute de plus en plus de citoyens qui sont sensibles par rapport à cette question-là. On le voit dans les manifestations, on le voit dans les différents collectifs qui se forment, etc. Et puis, d'un autre côté, il y a une révélation d'un monde politique qui a vraiment peine à trouver des solutions concrètes, quoi, et à mettre des choses en place vraiment. Et donc, les deux font que, bah, il y a une sorte de je sais pas moi, les citoyens se soulèvent un petit peu et veulent mettre ça en avant, veulent s'engager, veulent des mesures concrètes. Donc finalement, il y a peut-être quelque chose qui sort comme, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire sans les politiques, ou en tout cas aller au devant de ça, quoi, pas attendre qu'il y ait une décision qui sorte, parce que on voit que ça met du temps à sortir et qu'une fois que ça sort, c'est pas assez ambitieux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un peu plus vite, quoi.
Eh ben, c'est vous qui posez la question, mais c'est vous aussi qui allez tâcher d'y répondre avec avec Anthony. On va s'accorder dans un instant une pause musicale. On reviendra un peu plus tard. On aura le 10e dans un instant. Mais voilà, vous soulevez cette question. Je veux bien qu'on termine cette première partie d'échange autour de qu'est-ce qu'on peut faire globalement, mondialement ou peut-être localement aussi, parce que c'est vrai que à l'échelle du monde, ça nous dépasse quand même un petit peu. Voilà, comment faire avec le politique, sans le politique, peut-être éventuellement contre le politique. Voilà, si vous avez peut-être des exemples ou des choses à avancer. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, moi, pauvre être humain parmi 7 milliards d'habitants, bientôt 10.
Alors peut-être déjà pour faire avec, il faut savoir qu'actuellement, à l'échelle nationale, locale, à l'échelle des collectivités, il y a ce qu'on appelle les plans climat, air, énergie, territoriale qui sont en train de se mettre en place. C'est un gros document cadre pour mettre un peu en place, sur une durée de 5 ans, des actions liées à l'environnement, au changement climatique, etc., pour pouvoir s'adapter justement à ce changement climatique. Actuellement, dans toutes les communes et toutes les agglomérations, on peut participer à des réunions publiques, etc., pour justement parler un peu de sa voix. Et notamment, Alternatiba a mis en place ce qui s'appelle Alternative Territoriale, qui permet justement d'être un peu, entre guillemets, une force de lobbying, on va dire, pour justement s'intégrer dans ces réunions et parler un petit peu de tout ça pour qu'il y ait une voix citoyenne.
C'est ça, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, face aux lobbies d'intérêts privés économiques, un des outils pour les citoyens, c'est de créer ces lobbies d'intérêts, cette fois-ci, collectifs et communs. Autre chose à évoquer, Anthony, Clément ?
Ben, ouais, pour rejoindre un petit peu ce que dit Anthony, c'est ça, c'est que la politique, elle est difficilement atteignable à un niveau international, mais au niveau local, on peut plus facilement dialoguer, on peut plus facilement mettre en place des choses, et on est dans le concret du terrain, du territoire, de ce qui se passe. Donc oui, au niveau local, il y a énormément de choses à faire. Au niveau politique, il y a énormément de groupes qu'on peut rejoindre, qui existent déjà, qui travaillent sur ces sujets. Et puis il y a aussi le classique, un peu qu'est-ce qu'on fait de son argent, qui est un gros moyen de pression finalement, où on peut choisir de mettre son argent dans une banque qui va pas financer des projets climaticides. On peut mettre son argent dans un fournisseur d'énergie qui va respecter l'environnement et qui va essayer de financer des producteurs d'énergie renouvelable. Voilà, il y a plein de solutions de finalement comment on consomme, et à chaque fois qu'on dépense, on a un impact. Donc cet impact, on peut le mesurer, on peut voir les alternatives. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais en tout cas, les outils et les informations existent et se multiplient par rapport à ça.
Donc on peut peut-être donner des noms. Pour les banques, c'est la Nef et Crédit Coopératif, et pour tout ce qui est énergie, ça va être l'IA et NERCOP, tout simplement. C'est bien de le dire.
Et évidemment aussi, il y a les choix de consommation quotidien. Voilà, savoir est-ce que, tout simplement se poser la question, est-ce que j'ai réellement besoin de ça ou de ça? Est-ce que je peux pas l'avoir d'occasion, réutiliser des choses existantes? Est-ce que quand j'achète un produit, est-ce que j'ai forcément besoin du dernier outil, dernier cri, neuf et emballé sous plastique et produit à l'autre bout de la planète? Enfin voilà, ça paraît peut-être un petit peu de la pédagogie du rabâchement, je sais pas comment dire, puisque c'est des choses qu'on entend très régulièrement, mais c'est important à l'échelle individuelle de se poser, j'imagine, ces questions-là quotidiennement, sans que, évidemment, que ça devienne une source de torture et de souffrance. C'est petit à petit qu'aussi les choses changent. Il ne faut pas demander ou espérer que les gens changent radicalement du jour au lendemain. C'est important de rappeler ça, il me semble, pour que ça suscite l'adhésion du plus grand nombre. Parce que je crois, et peut-être on en touchera un mot dans un instant, mais ce qui se passe avec les gilets jaunes, c'est une des manifestations possibles de réaction face à une injonction au changement. Voilà, sans... quelque part sans préparation, et surtout sans adhésion, sans consultation. Voilà, si c'est imposé d'en haut et sans concertation, le point de blocage se crée. Enfin, en tout cas, c'est une lecture comme une autre, mais j'ai l'impression que c'est un peu la source de ça. On ne peut pas demander aux gens de changer leur pratique de vie du jour au lendemain sans qu'ils y aient été amenés, en tout cas, à le concevoir, à le penser, à le réfléchir et à le vouloir. Voilà, je propose une pause musicale. Tiens, un petit truc, je sais pas si vous y verrez un lien. Daniel Warraud, La Familia, vous êtes bien à l'écoute de Principe Actif et d'HDR.
Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à l'igro. Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à l'igro.
Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à l'igro. Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à l'igro.
Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à l'igro. Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à l'igro.
Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à l'igro. Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à l'igro. Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à l'igro. Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à l'igro. Papa j'aime beaucoup, tu cries à libelle, mi cries à l'igro.
Mon 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 mémé, mémé mon 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 mémé.
Mon 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 mémé, mémé mon 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 mémé.
Mon 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 mémé, mémé mon 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 mémé.
Mon 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 mémé, mémé mon 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 mémé.
Mon mon j'aime beaucoup, ni cries à l'itchi français dialibo. Mon mon j'aime beaucoup. Français Galibo.
Maman j'aime beaucoup, ni reality français Galibo. Maman j'aime beaucoup, ni reality français Galibo.
Ça papa ton frère, c'est mon enfant, tout à moi même maman. Pas besoin de la paix, mon enfant, tout dans la mode de sang.
Ça papa ton frère, c'est mon enfant, tout à moi même maman.
Pourquoi ni créalité français dialibo?
Maman, j'aime pourquoi ni créalité français dialibo?
Diaribo. Maman diame popé, ni qui ali ti pose Diaribo.
Ane akane nena udada, toto mame ma tata titata.
Ane akane nena udada, toto mame ma tata titata.
Oui, ane akane nena udada, toto mame ma tata titata.
Ane akane nena udada, toto mame ma tata titata.
Banadame pokwe, ni kozan ziaman po pidi momo. Banadame pokwe, ni kozan maman po nou di momo.
Banadame pokwe, ni kozan ziaman po pidi momo. Banadame pokwe, ni kozan maman po nou di momo.
Banadame pokwe, ni kozan ziaman po pidi. Maman, pour nous dire momo.
Banadame pourquoi, ni causant diamant pour petit momo. Banadame pourquoi, ni causant maman pour nous dire momo.
Faut s'en y en valer, oh mon enfant, ni respect puis tonton. Taïbana kakalo, mon zanzan, à nous dernier nation.
Faut s'en valer, oh mon enfant, ni respect puis tonton.
Respect puis tonton.
Taïbana kakalo, des zanzan, à nous dernier nation.
Faut s'en y en valer, oh mon enfant, ni respect puis tonton. Taïbana kakalo, mon zanzan, à nous dernier nation.
Et voilà, on est avec tous les tontons, et en l'occurrence avec le tonton Daniel Waro. On a écouté le morceau Familia, et on est très heureux de retrouver un des tontons habituels, le tonton du lundi, c'est Monsieur le Diseux qu'on a au téléphone. Bonjour à vous, Monsieur le Diseux, nous vous souhaitons une excellente année. Êtes-vous là? M'entendez-vous? Que faites-vous?
Je suis en train de me dire qu'il avait raison, Daniel Waro, c'est sans doute ma belle-mère qui est responsable du réchauffement climatique quelque part. Parce que je voudrais pas la balancer, mais bon. Vu que c'était les vacances et que tout le monde était chez papy mamie, il n'y a pas eu réu pendant 15 jours là. Alors, il s'est pas passé grand-chose du coup, on n'avait rien programmé. J'ai récupéré des doléances déposées en mairie par mon voisin pour voir ce qu'il pensait du monde dans lequel on vit, parce que du coup je me pose beaucoup de questions en ce moment sur mes voisins, sur mes voisins plus éloignés. Enfin bon, je les regarde avec des grands yeux un peu ébahis comme ça, et je me dis qu'est-ce que t'as dans la tête toi, qu'est-ce que tu penses. Donc du coup, j'ai souravé ces doléances qu'il avait déposées en mairie pour... Et puis parce que, espionner son voisin, c'est faire pleinement partie du monde moderne aussi, faut pas se leurrer. Et puis le futur dira s'il faut le balancer aussi aux autorités après, mais ça, pour le moment, on n'en est pas là. Alors, voilà ce qu'il dit, et du coup, il est remonté un peu dans, je dois avouer, un peu dans mon esprit. Alors voilà ce qu'il écrivait. Allez récupérer l'argent des impôts des multinationales avec les arriérés dus. Mettre en place une taxe sur les robots et sur les transactions financières. Rétablir l'ISF. Discuter de la dette, de ses origines, de la manière de la régler une bonne fois pour toutes, en l'effaçant par exemple. Alors là, mine de rien, mon voisin vient de vous filer un chèque de plusieurs milliards d'euros. En gros, il y a de quoi terraformer Mars en 3 ans. Comme pour la terraformation de Mars, on a encore au moins 4 milliards d'années devant nous. Autant utiliser cet argent pour la suite des doléances de mon voisin. Alors, parce qu'il avait écrit d'autres trucs. Il dit, on peut même ajouter quelques centaines de milliards supplémentaires si on veut, si on a besoin d'un peu de monnaie. En lançant un grand plan de financement avec les banques centrales comme ça a été fait pour les banques en 2008. je dis ça au hasard en plus des doléances de mon voisin, parce que je pense que bon, voilà, il n'avait pas tout. Il a pas tout. Bon. Et donc voilà ce qui décrit la suite. L'argent récupéré, donc c'est plusieurs centaines de milliards, d'euros, doit soutenir un grand plan d'investissement qui part dans plusieurs directions. Revalorisation et financement à la hauteur des besoins dans un mouvement de renforcement des services publics dans l'éducation nationale, la santé et notamment les hôpitaux publics, Pôle emploi et le soutien des chômeurs, la police, parce qu'il faut quand même être cohérent, des fois ils sont un peu à la ramasse, je dois le dire, l'assurance maladie, la protection des mineurs, et notamment en revalorisant le métier de travailleur social, en embauchant dans ce secteur, et aussi dans la protection des demandeurs d'emploi. Donc. Oui, je sais, ça semble assez surréaliste. Hein, et d'ailleurs, mon voisin, je vois que là, oula, ben alors il explique également, et voilà ce qu'il dit encore, mener une vraie réflexion et une expérimentation autour d'un revenu minimum d'existence. Bon, d'accord, ok. Lutter contre le trafic de drogue en légalisant la vente dans le pays et en récupérant quelques taxes au passage. Voyons, c'est ça, on va taxer aussi. Des solutions pour sortir du tout pétrole et du tout nucléaire avec une vraie réflexion sur le transport du futur. Hydrogène, point d'interrogation, marque mon voisin. Des transports en commun plus efficaces et plus nombreux, y compris en milieu rural. Les petites lignes SNCF. Voilà. Le soutien des acteurs locaux de l'énergie et notamment Enercoop pour aligner les prix de cette coopérative avec les prix les plus bas. Le soutien à l'économie de proximité et à l'agriculture biologique, ces deux pôles devenant prioritaires dans nos économies. Réfléchir au lien entre monde rural et monde citadin dans les flux et les échanges commerciaux, flux peut-être, je ne sais pas, énergie, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Réinstaller des MJC dans les secteurs les plus abandonnés. Non, mais les MJC, ils veulent faire du macramé. Banlieue, monde rural, etc. Une démocratie renforcée en utilisant les outils numériques, référendum, vote des lois en direct par les citoyens, proposition de loi en ligne, représentativité transformée, fin de la monarchie présidentielle, plus de décentralisation dans les régions et les communes, avec des moyens décentralisés, notamment pour soutenir l'agriculture et l'économie de proximité. Faire de l'Europe une entité bienveillante qui puisse soutenir ce grand plan de transformation et de modernisation. Bon, voilà, non, je sais, c'est mon voisin, je sais pas, il me disait bien aussi ces derniers temps, je le voyais se comporter, il marchait dans son jardin, cheveux un peu hirsutes, en fumant clope sur clope, en tournant en rond autour de sa maison, il y avait un problème, je voyais bien qu'il y avait un problème. Bon, voilà. En attendant, on reprend les réunions cette semaine, hein. La prochaine aura lieu dans la galaxie du Centaure, près de l'étoile B24 en direction de Proxima. Vous venez comme vous êtes, hein. Amenez votre repas et puis un truc à boire, et voilà.
Hey Moria, Mogoti Gabara Kefiga Kalake, Karamoko Hakilima. Hey Moria, Hey Moria, Mogoti Gabara Kefiga Kalake, Karamoko Hakilima. Karamoko Hakilima, Folila Lukalamba Hakilima De, Karamoko Hakilima, Aritisi Kalamba Hakilima De, Karamoko Hakilima, Usumani Kalamba Hakilima Sa, Karamoko Hakilima, Famadu Kalamba Hakilima De, Karamoko Hakilima, Bezo Lukalamba Hakilima, Magotika Barake, Fika Kalake, Karamoko Hakilima. Hakilima, follow the local lamba, Hakilima,
karamoko hakilima usumane kalamba hakilima de karamoko hakilima donsolo kalamba hakilima de karamoko hakilima aritisi kalamba hakilima sa karamoko hakilima yo ne karamoko hakilima moko tike barake fika kalange ne karamoko hakilima il danser danser il danser ala konde ma ko tekelenye tu babu kele ba yela lo maye
vient d'écouter Fama et les Tonton Friends. Le morceau, c'était Kalakomo Akiliba. Pardon, je déchiffre un peu la prononciation. Un groupe hébro-issien. On voulait, pour poursuivre nos échanges avec nos invités, Clément et Anthony, Alternativa Évreux, Alternativa Rouen, voilà, peut-être pour écouter un extrait d'un monsieur qui commence, qui influence, qui œuvre ou qui inspire bon nombre, je sais pas, on va dire des colos, mais pas que. Voilà, on écoute ça, on revient dessus dans un instant. C'est un tout petit extrait, mais qui résume pas mal de choses, et on voudrait terminer cette émission en évoquant cette thématique-là.
Quand on s'intéresse aux problèmes du monde et de la biosphère, on tombe toujours sur le mot effondrement, que ce soit les populations d'oiseaux, d'insectes, les écosystèmes, la biosphère, ou même humainement, politiquement, des classes sociales, des régions, des régimes politiques, etc. Et en fait, prises ensemble, interreliées, toutes ces crises amènent la possibilité d'un effondrement systémique global, que ce soit notre société, mais ça peut être pire si on fait les mauvais choix, ça peut même être un effondrement de notre espèce ou de la biosphère, de la majorité des espèces sur Terre. Alors toutes ces questions sont passionnantes d'un point de vue scientifique et sidérantes, renversantes, bouleversantes. Et donc ce qu'on a appelé collapsologie, c'est l'ensemble de ces travaux scientifiques qui traitent de ces questions d'effondrement, de tous les effondrements possibles. Et en fait, c'est tellement sidérant et bouleversant que juste la science, le logos, la raison n'est pas capable de traiter cette question. Et ça amène même des questions émotionnelles, psychologiques, spirituelles, métaphysiques, éthiques, qu'il faut aussi traverser et qu'on devra aborder forcément. Ça remet en question tout notre rapport au monde, et c'est ce qu'on a appelé, un peu en s'amusant, la collapsosophie, la sagesse. Comment on peut vivre bien en ayant conscience de ça et pour les années à venir, pour les tempêtes à venir. Et finalement, pour nous, pour notre génération, la question, c'est d'arriver à naviguer entre un « tout est foutu », qui est relativement toxique comme posture, à l'opposé, c'est « je veux que des bonnes nouvelles », c'est l'optimisme béat qui veut des solutions, et surtout « tu ne me parles pas de mauvaises nouvelles », qui est une sorte de déni, en fait. Entre les deux, il y a un chemin, un équilibre à trouver dans la posture pour arriver à se dire, finalement, une autre fin du monde est possible.
Voilà, on vient, un peu de musique qui repart, c'était pas convenu. On vient d'écouter Pablo Servigne, ingénieur, agronome, auteur avec Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, notamment d'un ouvrage qui s'appelle Une autre fin du monde est possible, qui fait le constat de l'effondrement de nos sociétés industrielles. C'est tout l'objet du propos. L'être humain confronté à la disparition de ses repères et d'un avenir qui semblait assuré doit trouver les moyens de se relever. C'est un extrait, pour citer la source, du site La Croix. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anthony, Clément ?
Ça m'inspire une certaine lucidité sur le fait qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, il est tellement déjà embarqué. On en parlait tout à l'heure, on est déjà quasiment à 1 degré de réchauffement depuis une centaine d'années. Et on sait que les activités humaines ne vont pas s'arrêter comme ça, donc qu'on va continuer à émettre pendant un certain temps, qu'on ne connaît pas parce que... On ne sait pas si on va réussir à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais pour l'instant, ce n'est pas parti pour. Donc, une certaine lucidité sur le fait que notre environnement va changer. On le disait, les espèces disparaissent petit à petit. Les océans s'acidifient, le niveau de la mer monte. Donc, ça va provoquer une forme d'effondrement, et donc il faut s'y adapter. Donc, moi, ça m'évoque une obligation d'adaptation.
Anthony ?
Oui, tout à fait. Enfin, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il va falloir. On sait que ça va se passer sans doute comme ça. Il faut arrêter de se mettre un voile devant les yeux et de pas regarder la réalité en face. Donc, c'est pas forcément négatif. Il le dit lui-même. Pablo Servigne le dit. Ça peut amener de nouvelles choses à mettre en place, une nouvelle façon de créer, d'échanger, d'interaction entre les gens, entre les espèces aussi. Pourquoi pas. C'est très transversal comme sujet. On peut parler. D'agroécologie, on peut parler de consommer différemment, de sobriété, de plein de choses comme ça, et ça ouvre la voie à pas mal de créativité en tout cas.
Il évoque aussi, alors là c'était un peu court et on invitera les uns et les autres éventuellement à aller chercher un peu plus loin autour des travaux de ce scientifique, et qui n'est pas tout seul d'ailleurs, Pablo Servigne, pour le reciter. Il évoque l'effondrement de systèmes, d'écosystèmes, de la biodiversité. Voilà, il commence d'ailleurs le propos qu'on vient d'écouter par cela, mais les gens qui ont travaillé sur ces questions d'effondrement évoquent aussi des effondrements financiers, économiques, un petit peu à l'image de ce qu'on a connu, ce qu'a évoqué tout à l'heure Monsieur le Liseux quand il nous parlait de son voisin, quand les banques centrales ont renfloué les banques. Voilà cet effondrement aussi financier, économique, mêlé, conjugué à un effondrement des écosystèmes. Voilà, les migrants climatiques dont on n'a pas forcément eu le temps de beaucoup parler ce matin, mais qui vont être et qui sont déjà, c'est du concret, des problèmes pour l'ensemble de l'humanité à envisager, à raisonner. Aussi peut-être l'effondrement quelque part politique, en tout cas ça pose cette question-là de remettre en cause un petit peu les choses et de réussir à se mettre plus ensemble d'accord. C'est un petit peu tout le problème qu'on a évoqué quand on parlait de la COP24 tout à l'heure. Voilà cette difficulté-là. Ces questions, lui, il l'avoue lui aussi, et peut-être que c'est le constat quelque part qu'on partage tous. Après, il parle du déni ou ça va pétisme, tout va péter, jusqu'au, pourquoi pas, des exemples de survivalisme des Américains ou pas que, qui s'enferment dans les bunkers. Enfin voilà, cette sensation d'être un peu béat, sidéré face à tout ça, et de voilà, il y a pas de questions.
Non, mais je pense qu'on se rend compte que ça nous dépasse et que
il faut l'admettre.
C'est ça. Il faut l'admettre, quoi. Et il y a aussi quand on parle d'effondrement, on pense un peu fin du monde et on fantasme assez vite sur quelque chose de très court, de très soudain, de très brusque. Alors qu'en fait, l'effondrement, c'est pas forcément ça. Ça peut être quelque chose de très progressif et qu'on est déjà en train de vivre. Vous le disiez, les réfugiés climatiques, les différents problèmes qu'on a, les tempêtes tropicales, etc., la montée des eaux, c'est déjà en train d'arriver. Et l'effondrement économique, il est déjà un petit peu en cours aussi. Il y a déjà eu plusieurs crises et ça va sans doute s'accélérer. C'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus du jour au lendemain. Il va y avoir des paliers avec des choses sans doute pas drôles qui vont arriver. Mais c'est pas une fin du monde comme on peut un peu le fantasmer. Donc c'est quelque chose qui peut s'anticiper du coup et se vivre, parce que c'est quelque chose qui va prendre plusieurs dizaines d'années sans doute à arriver. Donc on sait qu'on va avoir du mal à l'éviter, mais par contre on peut entrevoir plein de solutions pour pouvoir s'adapter et minimiser un peu l'impact sur les humains.
Anthony ?
Oui, donc c'est un petit peu ce qu'on avait dit aussi tout à l'heure. Donc il va falloir être ce qu'on appelle résilient, donc c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir, quelque chose de résilient, c'est quelque chose qui arrive à retrouver sa place lorsqu'il subit un choc, c'est un peu un ressort. Donc pour être résilient, justement, c'est travailler plus au niveau local, réussir à faire des actions en commun avec d'autres personnes, acquérir des savoir-faire, savoir quoi mettre en place pour évoluer, pour ne plus dépendre aussi de produits qui sont faits à l'autre bout du monde, d'une énergie qui n'est pas faite localement, etc. Donc on a toujours tendance, quand on parle à la fin du monde ou d'effondrement, etc., de penser violence. Mais justement, il faut se dire qu'on est une espèce qui est très sociable, justement. Donc si on regarde à chaque fois qu'il y a eu une catastrophe, etc., à l'épicentre, il y a eu beaucoup de convivialité, beaucoup de personnes qui ont travaillé ensemble pour pouvoir s'en échapper, parce qu'on est comme ça aussi, si on le fait pas, on n'y arrive pas. Donc ça peut être très positif aussi.
En un mot, Clément, vous vouliez peut-être parler également, parce que c'est évidemment lié, et on l'a évoqué un petit peu, mais voilà, l'actualité sociale et notamment, très concrètement, les gilets jaunes. Voilà, votre regard, qu'est-ce que vous aviez envie d'évoquer très rapidement, parce que l'émission se termine.
Non, je pensais à deux choses, principalement au prix de l'essence, qui est quand même le point de départ de cette mobilisation des gilets jaunes, même si aujourd'hui il y a énormément d'autres revendications qui sont, voilà. Mais c'est quand même partie de ça. Et c'est un sujet qui n'est pas évident parce que la transition écologique nous impose d'augmenter les prix de l'essence, enfin de plein de carburants et de tout ce qui pollue de manière générale. Donc il va falloir le faire d'une manière ou d'une autre parce que c'est le seul moyen réellement incitatif qui va nous permettre d'avoir un effet assez rapidement. Le problème, et c'est ce qui est ressenti par, j'imagine, l'ensemble, enfin une grande partie des citoyens qui se sont mobilisés, c'est un sentiment d'injustice parce que on nous met des taxes que d'autres n'ont pas et on a l'impression d'être complètement matraqué. Donc on prend l'exemple par exemple du kérosène des avions qui n'est pas taxé, etc. Et donc c'est une injustice sur le fait de dire non, on est d'accord, je pense que les citoyens sont d'accord, en fait sont prêts à se mettre d'accord en tout cas pour faire des efforts, mais ils veulent comprendre que cet effort il est partagé, ils veulent pas le subir tout seul. Et c'est un peu aujourd'hui ce qu'on ressent, c'est une espèce de pression politique qui va utiliser les citoyens pour essayer de faire avancer les choses et masquer le gros en fait de l'affaire qui est finalement les arrangements économico-technico-financiers, etc., qui favorisent la pollution via les entreprises, etc.
Jean-Jean, je vous...
Non, mais non. J'étais en train de... Enfin, vous parliez...
j'ai senti que vous vouliez peut-être...
Oui, vous parliez de kérosène, bon, pour les avions. Moi j'avais tous ces transports, tous ces paquebots, là, ces immenses... Oui. On continue de construire des immenses... paquebots,
voilà, et d'ailleurs,
qui font le tour du monde.
Il y a eu de l'actualité récente avec des containers qui sont tombés là au large des Pays-Bas
et
en mer
qui dégagent je ne sais pas combien de particules, etc.
C'est énorme. Et alors, le truc pas évident là-dessus, c'est qu'on pourrait facilement se détacher un peu de ce genre de problème en disant ils font chier, ils polluent. Arrêtez de polluer, quoi. Mais bon, finalement, ils sont en train de transporter des conteneurs, des énormes boîtes avec plein de choses dedans. Qui sont nos objets de consommation, nos fruits et légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Donc, il faut aussi se rendre compte de ça. Et par exemple, on parle souvent de la Chine en disant, mais ils polluent énormément en Chine. Mais oui, ils polluent parce que les usines qui produisent nos objets sont là-bas. Donc, c'est nous qui créons la pollution en Chine, c'est nous qui créons la pollution des bateaux, etc. Donc, c'est tout un système de société et un mode de vie qui est un peu à revoir, à réadapter par rapport à l'urgence.
Je vois la fin des missions qui arrivent. On n'aura évidemment pas le temps de bons plans. Peut-être à peine le programme du jour. Je voulais juste une dernière chose pendant qu'on vous tient, Clément, Anthony. Voilà, si on souhaite aller un peu plus loin, on a évoqué Pablo Servigne. Est-ce qu'il y a, je sais pas, votre livre de chevet ou voilà, quelqu'un ou un journal ou un média ou je ne sais quoi que vous aviez envie de mettre en avant la demi-seconde qui nous reste à l'antenne?
En journaux un peu indépendants, on peut avoir tout ce qui est La Relève et la Peste, tout ce qui est Mediapart, Reporter, Bastamag.
Pas mal, beau panel. moi, je parlerais plutôt d'un livre, du coup, le Manuel de Transition de Rob Hopkins, qui est un livre dont Rob Hopkins a initié les villes et territoires en transition depuis l'Angleterre, maintenant un mouvement qui est mondial. Et il a écrit un bouquin sur comment on peut se réunir, comment on peut faire de la pédagogie autour de soi, comment on peut parler de manière non violente et faire avancer les choses au niveau local.
Ce travail est le père fondateur de ce qu'on a appelé la transition écologique depuis, qui a été récupéré à toutes les sauces. Me semble-t-il, c'est parti de ces villes en transition en Angleterre.
Et pour ceux qui sont un peu plus vidéo, il y a sur YouTube, on peut retrouver tout ce qui est la barbe, partager c'est sympa, etc.
Il y a plein de chaînes de YouTube, il y a plein de YouTubeurs qui s'engagent pour le climat. Il y a aussi plein de médias qui se créent, et notamment un nouveau média qui s'appelle Imago, I-M-A-G-O, et qui reprend tout un tas de vidéos, d'émissions télé, de reportages, de documentaires qui traitent de l'environnement. Et tous les sujets sociaux qui y sont connexes.
Si vous n'avez pas eu le temps de prendre en note toutes les informations à l'instant, sachez qu'il y aura un podcast pour réécouter cette émission. Merci à tous les deux, Clément, Anthony, notamment d'Alternatiba, Rouen et Évreux, d'être passés par nos micros pour cette première matinale de 2019. Une minute pour vous annoncer le programme du jour sur nos antennes. HDR, à partir de 10h, vous retrouverez Upton Madness Radio Show. À partir de midi, ce regard d'ailleurs. Blabla Mix, programme commun à toutes nos antennes, c'est 17h, 18h. Radio Lomax, 18h, 19h. Ça, c'est nouveau. Kike Riki, pardon, je ne sais pas si c'est nouveau, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, c'est à partir de 19h. 20h, la musicale de Daria et Black Voices, 21h, 22h sur Principe Actif. Flash RFI Monde à partir de 9h, vous le retrouverez également à midi. Midi et demi, l'Oiseau Délire, la Rediff ou les Rediffs de 15 à 17h. Le Blabla Mix 17-18. 19-20, c'est l'Alchimix. Et la soirée se termine sur nos ondes Principe Activienne avec It's Time, Raguz et Jean-Mi de 20h30 à 22h30. Monsieur Jean-Jean, on se retrouve vendredi au plus tard, demain matin.
Avec plaisir.
Demain matin, ce sera l'Amideuse. Merci encore à Clément et Anthony de nous avoir accompagnés ce matin. On vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Principe Actif et d'HDR. Ciao.
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 Bye.
Ciao.
Bye. Bisous.
Bye bye.